Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis.
C'est pas bientôt fini.
En direct de la fête de l'Huma.
Je sais que la situation de vos collectivités est tendue et même insupportable pour certaines de nos communes. Je connais d'expérience l'importance des services publics locaux pour savoir ce qu'ils représentent pour notre modèle territorial et notre modèle social. Et je suis conscient du rôle de l'investissement public local. Alors j'ai décidé de diminuer de moitié l'effort demandé aux communes et aux intercommunalités en 2017. La baisse prévue des dotations se fera... J'en vois qui n'auraient sans doute pas voulu que je prenne cette décision et que j'en reste à la situation antérieure. On peut juger que ce n'est pas assez. Certains diront que c'est trop. Pas ici, ailleurs. Mais j'ai considéré, dans l'état actuel des finances publiques, que ce que je pouvais faire était ce que je pouvais honorer, ce que je pouvais financer, ce que je pouvais faire supporter. J'ai voulu, pour l'année qui est encore celle de mon mandat, faire en sorte qu'au lieu de 2 milliards d'euros en moins de dotation, il n'y en ait plus qu'un milliard pour le bloc communal.
Voilà, vous avez reconnu la voix d'un personnage éminent et important quand même dans ce pays, qui a été élu, hein, ne l'oublions jamais. Ça ouvre le débat qui commence maintenant, qu'on pourrait appeler marge de manœuvre. Avec nous, deux maires, M-A-I-R-E-S, le maire de Stain, Azzedine Taïbi, d'une part, et d'autre part, Patrice Leclerc, le maire de Gennevilliers, dans le 9-3 également. On vous a demandé de venir, c'est pas le 9-3 ?
9-2.
Ah voilà, je suis mal renseigné, tu vois. Voilà, okay. 9-2. Alors, ah oui, c'est plus chic quand même. Hein. Ah oui, ah oui, il y a le 9-3 et le 9-2, ça ne veut rien avoir. Mais d'ailleurs, le 9-2 est beaucoup plus élégant, beaucoup plus... C'est pas mal non plus, remarque.
C'est la classe aussi.
Non, ouais, savoir, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à la tête d'une mairie. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Quelle est votre marge de manœuvre? Après, vous allez nous dire ce que l'un et l'autre vous faites dans vos municipalités. Qui veut commencer? Patrice Leclerc.
Bien, il y a...
Gennevilliers.
Oui, il y a à la fois beaucoup de marge de manœuvre. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il faudrait réformer la vie municipale, puisque le maire a certainement trop de pouvoir. Et il faudrait redonner du pouvoir aux oppositions pour ramener de la démocratie au niveau local. Mais ça, c'est un autre débat. Après, le pouvoir que l'on a, c'est d'essayer d'améliorer la vie des gens. C'est d'aimer les gens. C'est d'essayer d'investir dans du service public. C'est d'investir dans le développement et l'épanouissement des enfants. Alors chaque ville est différente, chaque ville a une histoire différente, a des difficultés différentes. Par exemple, entre Azzedine et moi, nous avons les mêmes objectifs politiques, mais nos villes ne sont pas pareilles. J'ai plus de chance que lui. D'abord, je suis dans le 9-2, un département plus riche et plus attractif aussi pour faire venir des entreprises. Et donc, c'est plus compliqué pour Azzedine, par exemple,
c'est un port.
Que pour moi. Il y a le port. Alors, tout le monde pense que c'est le port qui est extrêmement important à l'échelle de la France et de la métropole, puisque c'est le premier port fluvial de France et le deuxième port fluvial d'Europe.
Ça fait des sous, ça.
Ça fait des sous, mais ce n'est pas le port qui nous donne le plus de sous. Le port, c'est 8000 emplois. Sur Gennevilliers, il y a 43 000 emplois. Il y a autant d'emplois que d'habitants. Et on fait plus de sous sur le reste de la ville que sur le port.
D'accord. Alors que Stain, Azzedine...
Évidemment, c'est beaucoup moins friqué que Gennevilliers, mais en même temps, je rejoins ce que dit Patrice, c'est les mêmes combats que nous menons à Stain, comme à Gennevilliers, comme d'autres endroits. Les marges de manœuvre, on a écouté tout à l'heure le président Hollande, sont en effet très faibles quand elles proviennent de l'État et quand on parle de redistribution des richesses et qu'elles redescendent dans nos communes. Mais s'il y a bien une marge de manœuvre essentielle et ce à quoi on s'efforce de le développer, c'est à Stain comme à Gennevilliers, c'est la marge de manœuvre avec la population. Je pense que le premier rôle d'un maire, d'une équipe municipale, c'est de mettre en mouvement nos populations et toute la population. Et c'est dans cette démarche-là que je m'inscris à Stain, et c'est le cas aussi à Gennevilliers avec des expériences fortes, même si c'est extrêmement difficile. Mais notre première préoccupation, c'est de mettre tout le monde en mouvement. Parce que comment expliquer que dans des territoires comme Astin, on subit de plein fouet le retrait des services publics. Voilà. Je me bats en ce moment pour préserver la trésorerie principale. C'est tombé sur la tête.
Qu'est-ce que ça veut dire, la trésorerie,
La trésorerie principale, bah, c'est là où les contribuables puissent, ouais. Voilà, vont payer les impôts ou en tous les cas vont négocier des échelonnements, etc. Donc elle est amenée à disparaître sur Stein. C'est impensable de voir cette situation et d'accepter un service public en moins, en tous les cas, qui serait amené à disparaître.
Au même titre que la Poste. Et ça, ce n'est pas sous votre autorité, ça.
Ce n'est pas sur mon autorité, voilà, c'est sous l'autorité de l'État. Mais la marge de manœuvre, quand il faut la saisir avec la population, c'est de se battre et refuser, en tous les cas, que des services publics disparaissent dans notre territoire, là où il y a besoin d'égalité républicaine. On s'est battu pour le maintien de la Poste, on a arraché son maintien. Mais c'est grave quand même de se poser la question et de se dire on est obligé de se battre.
Vous avez gagné là.
On a gagné sur la Poste il y a 2 ans. Voilà. Et là, on mène le combat sur la trésorerie principale. Mais je pourrais parler de d'autres sujets, sur l'éducation, sur l'école, sur la sécurité, sur beaucoup de domaines, sur la santé. Donc, du coup, nous sommes des maires qui incarnons, mais pas tout seuls, avec des équipes, avec nos équipes municipales, avec les citoyens, des maires qui incarnons le combat au quotidien. Parce qu'il faut en arriver là. On ne peut pas simplement, je dirais, se dire on gère une ville, on administre une ville. Il faut mener un combat sur tous les fronts. Et en effet, c'est difficile, mais c'est aussi important. Mais c'est difficile parce que les mesures prises par le gouvernement actuel, et c'était le cas déjà sous l'ère Sarkozy, fait qu'on nous frappe de plein fouet des politiques d'austérité.
Dis là.
Alors justement, Azzedine Taibi, vous, Astin, avec d'autres collègues maires, vous avez mené une fronde sur ce dossier des dotations de collectivités territoriales. On a entendu le chef de l'État qui s'exprimait devant l'Association des maires de France et il concède donc un geste présidentiel, mais qui ne vous calme pas pour autant parce que vous dites que approximativement le budget Astin, c'est 50 millions et ces fameuses dotations, c'est 3 millions.
Jusqu'à 2017.
Voilà. Et qu'est-ce que ça représente concrètement? Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
C'est énorme. 3 millions d'euros, ça voudrait dire qu'il faudrait que je décide de fermer le conservatoire municipal de santé.
Et de santé?
Le conservatoire municipal de musique et le centre municipal de santé. Voilà. Les deux en même temps. Voilà.
Donc ça oblige à des arbitrages pour
ça
vous.
Coûte à la ville, en termes de fonctionnement, cette somme, c'est énorme. Et ça, pour moi, il est hors de question. 550, je dirais, adhérents au conservatoire municipal
550.
De musique. 550, ouais. Enfants, adultes, élèves qui sont fréquentent le conservatoire. Je suis persuadé qu'on a beaucoup plus à Gennevilliers. Et pratiquement 20 000 actes, je dirais, de médicaux par an. Au centre municipal de santé.
Il faut rappeler,
en fin de compte, c'est des politiques publiques que l'on mène depuis des décennies, fortes, ambitieuses, proches des gens, et on nous demande de sacrifier cela.
Et c'est du boulot d'avoir 550 personnes qui viennent dans un conservatoire à Stein. Ça, c'est des années de boulot.
Exactement.
C'est des années de patience. C'est des années de patience, etc. Voilà. Il y a des hauts et des bas pour construire un truc comme ça, et ça se détruit d'un claquement de doigts.
Voilà. En tous les cas, on voit bien que la logique des politiques menées actuellement à l'échelle du gouvernement, c'est de nous pousser à réduire tous ces services publics essentiels au quotidien pour les habitants. Tout le travail qui est mené au quotidien, et vous savez très bien que c'est une action qui s'inscrit sur le long terme, c'est pas simplement...
Et pour vous, Azzedine Taibi, c'est d'autant plus aberrant qu'à un moment donné, vous avez déclaré que ce qu'on vous oppose, c'est ce fameux mot, l'austérité. Pour vous, c'est pas viable.
Oui.
C'est faux.
C'est faux. C'est extrêmement grave, c'est faux, et quelque part, on veut faire subir la double peine aux habitants de nos territoires. L'austérité, si c'est pour réduire les dépenses publiques, si c'est pour dire réduire la possibilité, justement, à permettre à ce que nos concitoyens, et en particulier les enfants, les jeunes, puissent avoir accès à la culture, à l'éducation, c'est extrêmement grave.
Et à la santé ?
Et à la santé, c'est préoccupant.
Oui, parce que là, on a parlé du conservatoire, mais il y a aussi la santé qui est concernée.
La santé, bien sûr.
Ouais, bien sûr. C'est peut-être le moment de rappeler ce que coûte l'évasion fiscale à la France. C'est autour entre 60 et 80 milliards. On le rappellera sans doute tout à l'heure avec nos amis d'attaque. Là, c'est combien en moins ?
C'est 3 millions d'euros. Ouais. Voilà, on vous rendez compte
peut,
un peu. Voilà,
on peut rapprocher.
Les proportions sont...
Alors, il faut rappeler aussi une donnée importante, en tout cas pour Stein, c'est que vous n'êtes pas loin d'être la ville record en termes de logements sociaux, le pourcentage.
Oui. On est à peu près à 64% de logements sociaux, et on en est fiers d'ailleurs, voilà, et on souhaite en tous les cas continuer à construire du logement social pour permettre à des familles, à des ménages de pouvoir accéder au logement social. Mais à côté de ça, quid des maires qui ne respectent pas la loi SRU avec... le seuil qui était prévu de 25% de construction de logements sociaux. Voilà, c'est un des combats que l'on mène, et je sais que Patrice le mène aussi à Gennevilliers, et ça, bon, c'est insupportable, mais il faut le partager avec la population. Quoi.
Les mêmes problèmes, Patrice, à Gennevilliers.
Oui, tout à
réduction.
Fait. Réduction de 3 millions d'euros par an de dotation. Et ce qu'il faut rajouter, parce qu'il n'y a pas que les dotations, l'État diminue, par exemple, on nous embête sur ces questions de radicalisation dans les quartiers, etc. Mais on nous empêche d'agir dans les quartiers. L'État, ce même État qui dit qu'il faut assurer dans la sécurité, diminue les moyens pour les associations de quartiers. La politique de la ville a diminué de 16% ses subventions. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais refusé de recevoir El Khomri à Gennevilliers, puisqu'elle n'avait pas tenu ses engagements. Et ils font baisser l'aide aux associations. Je pense à ces jeunes qui, dans des quartiers, s'occupent d'autres plus jeunes qu'eux. Ils ont besoin d'argent pour mener des activités. Et ça, c'est le meilleur moyen quand même de faire du vivre ensemble, du lien commun. Et en plus, ce sont vraiment des économistes de pacotille. D'une part, les collectivités locales ne sont en rien responsables de la dette de la France. Ça n'a rien à voir. Les collectivités locales ne produisent pas de dette. On est obligé d'avoir des comptes équilibrés. Mais pire que ça...
Équilibrés à l'année ?
À l'année, oui, bien sûr.
Ah, d'accord.
Et dans la durée. Et pire que ça...
Tu ne peux pas t'endetter ?
Non, si, on peut s'endetter. La dette...
Insincère, on ne peut pas... On ne peut pas présenter un budget en déséquilibre.
Le budget, est c'est-à-dire qu'il y a un niveau de dette où là, ça devient dangereux. Mais par exemple, la moyenne d'endettement des villes de 45 000 habitants, c'est une dizaine d'années. Au-dessus, ça devient dangereux. Gennevilliers est endetté sur 3 ans, ce qui est que, relative, j'allais dire que dalle, c'est rien, c'est sûr. Mais l'absurdité de ces économistes de pacotille qui ont décidé un jour de ces 3% de non-dépassement de la dette budgétaire, ils font des comptes complètement absurdes. Il faut savoir que quand on investit 1 euro dans la construction de logements, c'est 1,6 euro qui revient dans les caisses de l'État. Mais eux, ils ne comptent que ce qu'ils dépensent. Ils ne comptent jamais les recettes en face. Et donc, ils sont capables de couper des investissements, même s'ils sont utiles à la population, même s'ils rapportent de l'argent à l'État. C'est vraiment un système totalement absurde. Je rajoute... Il ne suffit pas que la culture soit gratuite pour que les gens en profitent. Et avec Asdine, on mène un combat pour que les couches populaires profitent de la culture. Parce que les enfants de milieux populaires ont droit et ont besoin, plus que d'autres, je dirais, d'interventions culturelles collectives. Alors on fait des efforts en faisant du quotient familial.
Du quoi ?
Le quotient familial, c'est-à-dire qu'on paye en fonction de ses ressources.
Ah.
Il faut savoir que Gennevilliers a été traîné devant les tribunaux 4 ans de suite parce que les préfets refusaient qu'on applique ce quotient. Et avec d'autres villes, on a réussi à le gagner. C'était une lutte contre l'État sur le fait que les familles populaires puissent payer au quotient familial. Mais même ça, ça ne suffisait pas. Il a fallu 2 manifestations en direction du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la mise en œuvre des temps d'activité périscolaire pour avoir le droit d'expérimenter à Gennevilliers de faire de la culture sur temps scolaire gratuitement pour tous les mômes. Et là, maintenant, on développe ça. Mais pour faire ça, moi, je peux le faire, Asdine ne peut pas le faire. Et ce n'est pas parce que c'est un mauvais maire, ce n'est pas parce qu'il a de mauvaises orientations, c'est qu'il n'a pas les mêmes sous que moi. Moi, j'arrive à prendre les sous aux entreprises, et c'est fini depuis le 1er janvier, d'ailleurs, avec la loi qui vient de passer sur la réforme de financement des entreprises, je ne pourrais plus faire ça. Mais jusqu'ici, en prenant l'argent dans les entreprises, je pouvais le réinvestir dans le service public. Asdine avait moins d'entreprises, donc ces inégalités-là, faut les résorber, il faut qu'il y ait une péréquation entre les communes, il faut prendre de l'argent ailleurs pour en donner aux communes qui en ont le moins. Mais il y a besoin d'investissements publics pour l'avenir de nos propres enfants.
C'est ça. Un effet de la désindustrialisation et mondialisation, enfin, déréglementation, mondialisation, désindustrialisation, baisse d'activité, donc au niveau, à votre niveau, là, tous les deux, baisse de revenus, quoi. Alors, c'est moins le cas pour Gennevilliers, hein, c'est ce que...
Mais ça, voilà. ça a été fatal pour Stein et pour toute cette partie de la Seine-Saint-Denis. Quand on a connu la désindustrialisation très forte, dès le milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 80, ça a été terrible. Ça a été des centaines de familles, d'ouvriers qui se sont retrouvés au chômage. Certains, je vois bien, ont pu quitter Stein pour être relocalisés autre part. D'autres sont restés à Stein, sont pratiquement restés assignés en résidence. sans pouvoir travailler, etc. Je pense que le cœur du problème, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'emplois ou qu'il y ait très peu d'emplois. Alors, on retrouve un certain nombre d'emplois grâce à la dynamique menée par Pleine Commune sur l'échelle du territoire, mais c'est extrêmement difficile. Mais l'enjeu pour nous, Patrice l'a bien dit, c'est comment faire respecter la dignité de nos populations. Parce que là, la baisse des dotations, si on ajoute à cela la baisse des moyens en matière de droit commun, l'éducation, parce que pour Patrice comme pour moi, qui sommes, je dirais, issus du mouvement d'éducation populaire, l'éducation pour nous, c'est une valeur, je dirais, essentielle, extrêmement importante pour nos familles.
C'est un bon placement en plus.
Oui, voilà, et c'est un sacré investissement. C'est un bon investissement pour l'avenir. Et voilà, on subit la baisse de dotation et en plus la double peine, on voit les moyens se réduire en matière de droit commun. Alors évidemment, à cette rentrée à Stein, j'ai pu voir que dans chaque classe, il y avait un enseignant. C'est très bien, voilà. Mais dans quelles conditions ça s'est fait et avec quelle bataille on a pu mener, voilà, c'est terrible.
Alors justement, pour cette rentrée scolaire, il y a sûrement une étude qui vous a aussi fait réagir à l'époque quand elle est sortie, c'est ces enfants qui vont à l'école le ventre vide. Vous, au niveau des maires, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça pour aider les familles ?
C'est le cas à Stein. On a mis en place depuis maintenant quelques années un enfant, un fruit dès le matin et un goûter dès le matin.
Donc sur même le... Attends. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des
mômes qui arrivent le ventre vide. Voilà. Les mômes qui arrivent le ventre vide.
T'as des études plus près, des chiffres plus précis.
J'ai pas des chiffres. Alors c'est pas important, mais même le peu de gamins qui viennent le matin le ventre vide, c'est quand même inquiétant. Donc les enfants savent qu'ils peuvent disposer d'un fruit, soit ils le prennent directement ou pendant la pause dans la matinée, et puis d'un biscuit. Pour nous, c'est important. Voilà. On a instauré ça à l'échelle de la ville depuis de nombreuses années. On le maintient, c'est sur nos fonds propres. Au début, on était accompagnés financièrement à hauteur de 30-40%. La subvention a été retirée, mais on a souhaité pérenniser cette action parce qu'elle est essentielle, et surtout pour les gamins qui puissent étudier dans de bonnes conditions.
Est-ce que vous avez des marques ou des entreprises qui vous proposent de vous soutenir, par exemple, dans le cas là, de distribution de biscuits ou de
McDo, par exemple,
matin.
On n'a pas besoin. Ouais,
je sais pas, on n'a pas besoin.
Je n'ai pas besoin. La malbouffe aussi, c'est un combat qu'on mène. Donc,
Oui.
Non, on n'a pas de marque ou d'enseigne qui nous soutiennent. Et puis, on n'a pas spécialement cherché dans cette démarche. Ce dont on a surtout privilégié, c'est la santé publique de nos gamins.
Même souci à Gennevilliers ?
Oui, bien sûr. Nous, on travaille beaucoup, mais je crois que ça doit être pareil ailleurs, sur la base du quotient familial. Les familles payent en fonction de leurs revenus. Et donc, il y a des familles qui payent vraiment très, très peu le prix de la cantine, ce qui permet d'assurer un droit à un bon repas à tous les enfants. On a d'ailleurs des taux, ce qui pose même des questions après d'un point de vue d'investissement public, parce que c'est dans nos villes les plus populaires où il y a le plus besoin. C'est-à-dire que nous, nos cantines, elles sont pleines. Elles sont pleines d'enfants. De même, nos centres de loisirs sont pleins. Comme nos colos, on essaye de pousser à ce que les enfants aillent en colonies de vacances. Certains, c'est leurs seules vacances. Les parents se saignent pour payer les colonies de vacances. Et donc, c'est quelque chose d'important pour nous que de développer sur la base du quotient familial. Mais quand il y a le quotient familial, c'est la ville qui paye. Il faut savoir, dans une ville comme Gennevilliers, personne, même les gens les plus riches, payent plus de 50% du prix de revient. Donc, il faut casser une idée reçue, parce que des fois, comme on est dans un moment, une période où on essaye de diviser les gens. Donc il arrive que des salariés nous disent, c'est cette mythique couche moyenne par exemple, nous dit « moi je paye des impôts, je paye pour les autres ». C'est faux, personne ne paye pour les autres. Parce que même un salarié qui serait au plus haut plafond dans notre ville de Gennevilliers ne paye pas plus de 50% du prix du conservatoire, du prix de revient du conservatoire, pas plus de 50% du prix d'une colo. Et je dirais même, souvent, ce sont d'ailleurs les couches moyennes qui bénéficient le plus au retour des taxes qu'ils payent, parce que c'est eux qui consomment le plus de spectacles culturels qu'on leur vend moins cher, qui consomment le plus de conservatoires. Voilà. Et donc, cette égalité, c'est ça aussi qui fait de la ville, c'est de faire en sorte que des enfants de toute couche sociale puissent se retrouver dans des activités de qualité. Et c'est ce que l'on essaye de développer, de la qualité. Mais ça, il y a besoin d'argent. Je dirais presque... Le modèle de Gennevilliers, de ce point de vue intéressant, c'est que le fait qu'on ait de l'argent prouve que si on peut investir dans les cités HLM, si on peut faire en sorte qu'on ne laisse pas se dégrader un bâtiment, si on peut faire en sorte qu'on repeigne les cages d'escalier, qu'il y a des moyens pour que le mobilier urbain soit de qualité, qu'il y ait des interventions culturelles de qualité. Les gens se sentent respectés et les gens vivent mieux ensemble. Et plus on dégrade la capacité à faire respecter les gens dans un monde digne, dans la dignité, en leur disant « vous comptez pour nous parce que vous êtes les gens les plus importants pour nous », ça aide. Et empêcher les communes d'avoir cette action, c'est aussi faire qu'il y ait des gens qui sombrent et qui sont même qui en arrivent à la haine de soi ou à la haine de l'autre. Et ces deux facteurs de la haine de soi et de la haine de l'autre créent des explosions qui nous empêchent de changer la société.
Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Patrice. On a été amené, nous, maintenant, depuis 2 ans, à rendre complètement transparent la question du quotient familial. Parce que c'est vrai qu'on entendait, mais ça, c'est malheureusement aussi le poids des médias et le poids du système, on va dire, capitaliste, qui pousse à dire que, en fin de compte, t'es plus pauvre que ton voisin ou un petit peu plus riche que ton voisin, donc c'est ton voisin qui te pique les moyens. Donc on a mis en place, de manière transparente, qui bénéficiait du quotient familial Astin. Tout le monde en bénéficie, quels que soient les revenus. 10% à 80%. Donc ça veut dire que même une famille qui a les moyens suffisants Astin bénéficie de l'aide familiale. C'est important parce que souvent, ce que disait Patrice, on paye pour les pauvres. Et moi, ce que je leur rétorque, vous ne payez pas pour les pauvres, vous payez pour les riches. Parce que proportionnellement, ce que vous payez comme impôt, c'est beaucoup plus important que celles et ceux qui sont au CAC 40. Voilà. Et je pense que c'est important de rétablir un certain nombre de vérités, surtout dans cette ambiance nauséabonde.
Ce que vous racontez tous les deux, et je pense que vos semblables et d'autres maires en France, c'est cette aspiration à l'égalité et à la justice de la part de vos administrés. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une aspiration à l'égalité et non pas une aspiration à l'inégalité selon l'idéologie dominante ambiante. Dylan.
Alors, je voulais revenir sur ce que vous avez dit, Patrice Leclerc, le risque à venir d'explosion. Déjà, il y a eu une petite explosion qui a été très médiatisée. Vous avez apporté votre soutien, vous deux, à votre collègue d'Aubervilliers, Madame Myriam Derkaoui, avec ces tensions, cette communauté, on peut discuter du terme, la communauté chinoise prise pour cible, parce que supposée se promener avec des grosses sommes d'argent liquide, supposée aussi ne pas aller se plaindre. Vous dites aussi, attention, on apporte notre soutien à notre collègue, il faut maintenir la cohésion ou nos efforts pour la cohésion, et on interpelle aussi l'État. Il y a encore une histoire de moyens.
Tout à fait. D'ailleurs, demain,
Aubervilliers,
qui est une ville très proche de Stein et qui est sur l'agglomération du territoire de pleine commune.
Avec cette manif la semaine dernière.
Cette manif. Là, en effet, la communauté chinoise a été touchée de plein fouet. C'est un acte crapuleux, un acte raciste. Mais la situation est beaucoup plus globale. Toutes les classes populaires sont victimes, je dirais, des effets de l'insécurité que nous connaissons dans nos villes et du fait qu'on ait moins de moyens en matière de police. Comment expliquer qu'un commissariat comme celui de Stein et de Pierrefitte, qui rayonne sur 2 communes, est pratiquement 100 agents de moins qu'un commissariat comme Rueil-Malmaison ou Le Val-en-Perret? Comment on peut expliquer? Nous, on se bat pour que la police nationale, la police de la République, soit présente dans nos quartiers populaires aux côtés de tous les habitants. Et les premières victimes, ce sont les jeunes. Et c'est important. Alors, je le dis à chaque fois, on subit la double peine. Pourquoi? Parce que dans nos villes, et c'est le cas à Gennevilliers, on mène depuis très longtemps des politiques volontaristes en matière d'éducation, de prévention, de médiation. À côté de ça, il faut aussi des réponses en matière de sécurité. Je dis bien en matière de sécurité. Pas sécuritaire, pas sur le délire de Sarkozy, etc. Et là, on subit de plein fouet des moyens qui ne cessent de diminuer. Demain, on reçoit Cazeneuve vient sur le département de la Seine-Saint-Denis et rencontrera l'ensemble des maires du 93 à Bobigny. J'aurai l'occasion, si on m'y invite, j'aurai l'occasion de dire clairement que le traitement de l'égalité républicaine est rompu dans nos territoires. Et c'est inacceptable. Dans le domaine de la sécurité, de l'éducation, de l'emploi, de la santé. Tout à l'heure, vous parliez d'égalité, de justice. Je rajouterai de respect aussi. Parce que là, quelque part, on ne respecte plus les citoyens.
On a compris, vous êtes des maires plutôt un peu à gauche, quoi. Il faut bien dire les choses.
Bien à gauche. Bien,
est-ce que non, mais quand vous rencontrez vos collègues maires, est-ce que vous rencontrez des maires de droite qui parlent comme vous?
Alors, pour être franc, dans le monde des maires, sauf une infime minorité, tous les maires aiment leur ville et leur population. Et donc, on peut ressentir la même fibre chez des maires, de gens dévoués.
On ne va pas voir un maire qui va dire...
Sur leur activité.
Bonjour les enfoirés.
Après, il y a des divergences fondamentales sur la conception de la ville. Il y a des maires, ils ont envie de l'entre-soi, voire même subissent la pression de l'entre-soi. Moi, il m'arrive de discuter avec le maire de Sceaux, qui est une ville assez bourgeoise du sud du département. Lui-même souhaiterait parfois construire du logement social, mais la pression de ses habitants qui sont dans leur entre-soi égoïste fait qu'il recule assez facilement s'il ne sera pas réélu aux prochaines élections. C'est pour ça qu'il faudrait aussi des mesures que les maires qui ne construisent pas de logements sociaux soient inéligibles pour les obliger à le faire. Après, il y a des vraies divergences. Par exemple, sur le logement social, il y a une divergence idéologique majeure. Moi, je fais partie, mais Asdine aussi, de ces rares maires, y compris dans notre camp, qui, disons, le logement social n'est pas responsable de la crise sociale. Le logement social n'est pas égal à cas social. Le logement social, c'est le droit au logement pour toutes et tous. Et si on veut éviter la paupérisation du logement social, il faut supprimer la loi Boutin qui met des plafonds, qui fait sortir les quelques ouvriers ou cadres ou jeunes cadres qui ont une petite augmentation de salaire du logement social. Et donc, par contre, le logement social est extrêmement important. Si on n'en construit pas plus en région parisienne, dans 30 ans, il n'y a plus un salaire. Nos enfants ne vivront plus dans la métropole du Grand Paris. Moi, même en achetant, parce que le logement social empêche aussi la spéculation immobilière, la hausse des prix, y compris dans le privé. Aujourd'hui, les gens qui achètent à Gennevilliers, ce sont des jeunes couples qui sont chassés de Clichy, chassés de Paris, chassés d'Asnières, parce qu'ils ont eu un enfant, ils veulent une pièce de plus, et c'est inabordable pour eux dans la proche couronne de Paris. Ils viennent à Gennevilliers parce que nous avons une maîtrise foncière. À chaque fois que quelqu'un vend, nous achetons pour empêcher la spéculation immobilière. Ça, on le fait parce qu'on a des moyens, mais ailleurs, ce n'est pas forcément possible. Et donc, j'ai fait une proposition récemment, c'est qu'on instaure sur la métropole de Grand Paris la fin de la propriété foncière privée et qu'on installe, pour ceux qui construisent, des bails emphytéotiques. Ça ne réglera pas tout parce que ça n'empêchera pas la spéculation immobilière, mais ça peut déjà empêcher la spéculation foncière pour permettre d'installer des entreprises et du logement social. Et pour la police, j'ai aussi proposé qu'on nationalise la police municipale. Parce que les polices municipales, c'est des inégalités territoriales. Hollande supprime des moyens aux collectivités territoriales et on leur demande, sans transfert de charges, d'avoir une police municipale pour faire le boulot de la police nationale. Si on veut récupérer des effectifs, comme le disait Nasdine, eh bien nationalisons la police municipale, répartissons ces effectifs sur le territoire et refaisons une police de proximité qui respecte les habitants, une police qui fait traverser les gosses et qui donc permet d'avoir des gosses et des familles un rapport amical entre policiers et habitants, qui fasse que les jeunes soient reconnus et qu'on ne les contrôle pas 10 fois par jour pour leur demander s'ils habitent vraiment là et qu'on leur explique ainsi qu'ils ne sont pas vraiment français. Non, faisons une police de nos quartiers qui connaissent les gens, que les gens connaissent.
Alors, vous avez parlé d'un mot important, vous avez commencé avec ça, Asdine Taïbi, la dignité. La dignité, c'est au nom de cette grande idée que vous êtes engagé aussi dans ce combat, les expulsions locatives, vous êtes contre. Mais en même temps, quelle est votre marge ?
Elle est évidemment très faible. J'ai aussi.
C'est pas parce qu'une marge de manœuvre est faible qu'il faut la laisser
bien
tomber.
Bien sûr, ben justement. Voilà. Même quand elle est faible, ben on y va. Même un petit coin de souris, on ira. Sur la question des arrêtés, des expulsions, un élément aussi important quand même à préciser, c'est que l'État, et en tous les cas son représentant, et c'est le cas en Seine-Saint-Denis, ne respecte pas, je dirais, la loi. Je ne dis pas au préfet de ne pas expulser. Je n'ai pas le droit, justement, je n'ai pas ce pouvoir de police. Je dis simplement au préfet de la Seine-Saint-Denis, si vous expulsez, vous êtes dans l'obligation de reloger la famille ou la personne qui a été expulsée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est simplement la loi stricto sensus. Donc, je suis passé au tribunal administratif il y a 15 jours. La juge a confirmé la suspension de cet arrêté. Je ne désarme pas, nous n'allons pas désarmer pour autant, puisqu'il faut que les représentants de l'État respectent la loi. Et ce sont les conventions des Nations Unies qui le précisent clairement, expulsion, relogement, obligation. Et c'est le cas, malheureusement, dans ma ville. Comment gérer des situations de personnes, y compris de retraités, qui se retrouvent à la rue, malades, et qui risquent, en tous les cas, soit de mourir, ou soit d'aggraver leur situation.
Et là, vous c'est une question. Réserve.
Comment ?
Vous offrez l'hôtel à certains.
On offre l'hôtel, mais ça se résume à 3-4 jours, mais ouais. La personne est dans la rue, quoi. Là, il y a une question de dignité.
Comment est-ce que vous faites, alors, justement, pour que le représentant de l'État applique sa mission ? Si c'est la loi, si c'est dans le texte, le noir sur blanc ?
Bah, de toute façon, la loi n'est pas appliquée, de fait. Donc, le préfet, systématiquement, suspend l'arrêté, et c'est un bras de fer qui s'instaure entre les collectivités qui se battent, et c'est le cas en Seine-Saint-Denis, nous sommes 5 villes à avoir mis en place des arrêtés anti-expulsion, et 11 avec les villes du 92, dont Gennevilliers, pour demander à ce que l'État respecte le relogement des familles expulsées.
En plus de cette bataille juridico-politique qui est menée de main de maître par Asdine, il y a aussi la lutte. Il y a aussi la lutte, par exemple, comme élu, si on est prévenu avant, comme élu, on se met devant le huissier et les forces de l'ordre qui veulent faire sortir les gens et on peut les empêcher de rentrer. Nous avons une expérience de notre ville où on empêche, en mobilisant les habitants, on empêche des expulsions parce que là il y a trouble à l'ordre public et l'huissier ou le commissariat est obligé de faire appel au CRS. Après c'est un choix, ça nous est arrivé de nous faire taper pour que ça puisse se passer, mais souvent ça permet de faire abandonner l'expulsion. C'est peut-être même souvent d'ailleurs entre habitants un moment où on fait de la solidarité, on surveille si l'huissier vient. Ça c'est une longue tradition de lutte dans quelques cités. Et puis on a aussi des choses où on se met d'accord avec avant pour essayer de voir les cas et essayer de désamorcer avant l'expulsion, parce qu'il y a toute la prévention qui est menée par nos services aussi pour empêcher qu'il y ait des expulsions.
Moi, je crois que c'est intéressant de vous écouter tous les deux, parce que ici, dans un endroit comme la fête de l'UMA, il y a au milieu des bouquins, des grands textes révolutionnaires magnifiques qui chauffent la tête de tout le monde.
C'est important aussi.
Ouais, c'est vachement important, t'as raison. Mais des grands projets, etc. Enfin, vous avez les pattes dans le cambouis tous les jours. C'est vachement intéressant de vous entendre avec finalement... Un horizon tout simple, quoi. L'horizon que pouvait avoir un instit quand j'étais gosse, c'est-à-dire l'émancipation.
C'est vrai, mais moi je puise de la réserve et la dynamisme dans la gestion municipale des lectures. Par exemple, c'est la lecture de Roland Gori sur ces questions de dignité, de la dignité de pensée, de ce qui arrive aux gens. Il est important d'agir sur le terrain. Et moi ça me sert beaucoup pour avoir ce ressort intellectuel, me ressourcer pour savoir est-ce que je fais est juste. Parce que le terrain n'a pas toujours raison. On peut faire des actions de terrain et avoir une perversité. Après, des fois, ça nous arrive de prendre une mesure, on la croit bonne, et une fois qu'elle est mise en œuvre, on a
des effets pervers auxquels tu n'avais pas pensé.
On se retrouve avec plus de problèmes que ce qu'on avait. Et donc, avoir le soutien d'intellectuels, de gens qui nous observent, ce qui nous manque aussi, parce qu'on ne peut pas tout changer à l'échelle locale. Il faut travailler à l'échelle locale parce qu'on peut changer le monde localement. Mais il nous manque quand même cette grande aventure collective à l'échelle nationale. Et ça, c'est un handicap pour nous, maires, parce que ça porte sur nous et on s'affronte à la pensée unique en permanence. La pensée unique qui gagne toutes les couches de la population, la dérive droitière. Il y a à la fois du très beau dans nos cités populaires, il y a aussi du très mauvais. Et donc, il faut arriver à gagner sur ce rapport de force.
Dans le champ, oui, vas-y.
Pour aller dans le sens de ce que disait Patrice, ce qui nous donne certainement la niaque et l'envie de se battre et d'agir, c'est aussi les habitants. C'est parce qu'ils le méritent. Voilà, ça rejoint ce que disait Patrice. On parle beaucoup de dignité et de respect. Parce que nos habitants, en particulier les jeunes, qui, pour beaucoup d'entre eux, se battent au quotidien pour s'en sortir, que ce soit à l'école ou à la formation, etc., c'est ce qui nous donne la niaque. Et en effet, dans nos territoires, on ne peut pas accepter ce traitement, cette rupture de l'égalité républicaine. Nous sommes un peu, voilà, on est des porte-voix en quelque sorte. Voilà. Tout à l'heure, vous faisiez référence à des instituteurs. Nous sommes des porte-voix. En effet, il est important aussi de s'immerger et de voir un petit peu ce qui peut décoller du local, parce qu'on croit réellement que les possibilités de changer la société, changer le monde, passera par le local. Et le lien avec, je dirais, le global est pour nous assez important. Et le combat que l'on peut mener contre des expulsions pour plus de moyens à l'école, pour nous, il n'est pas, je dirais, séparé du combat que l'on mène pour la dignité de celles et ceux qui sont emprisonnés un peu partout dans le monde. Je pense en particulier à Marwan Barghouti.
Voilà.
Pour moi, c'est un fil rouge, en quelque sorte. Et alors, c'est vrai que c'est parfois difficile de l'expliquer sur le terrain. J'ai souvent été chahuté par des habitants me disant « Oh, mais vous parlez des prisonniers palestiniens, Barghouti, pensez à nous. » Mais pensez à vous, c'est penser aussi à tout cela. C'est lié. C'est aussi une vision du monde et de la société que l'on souhaite.
C'est l'autre mondialisation.
Exactement. Un tout autre modèle qui nous est imposé et que nous subissons au quotidien.
Merci.
C'est insupportable. Hein.
Merci à Zedine Taibi. Merci Patrice Leclerc. On peut les applaudir tous les deux quand même. Ils ne sont pas uniques, il y en a d'autres quand même dans ce pays. On continue avec Guillaume. Est-ce que tu es prêt?
Oui,
Guillaume Farlet, qu'on encourage et qu'on applaudit.
Merci.
Luma, si j'y suis, là-bas, si j'y suis.
Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Où est passé Paris la rose, Paris sur Seine la bouclée, les partis en portant la clé, les nonchalants du long des quais, Paris ma rose. Où sont-ils passés, Villon et ses filles? Où sont-ils passés, Genin, l'avenue? Et le chemin vert, qu'est-il devenu? Lui qui serpentait près de la Bastille. Où est passé Paris la grise? Paris sur brume la mouillée. Les parties Paris l'oublié, parti sur la pointe des pieds, Paris la grise. Où sont-ils passés ceux qui fraternisent avec les murailles et les graffitis, ces soleils de craie? Où sont-ils partis qui faisaient l'amour au mur des églises? Où est passé Paris la rouge, la commune des sans souliers, ces pères du vert, Aubervilliers, Auvers, Nanterre, l'embourbé, Paris la rouge. Où sont-ils passés Clément et Cerise? Est-elle fermée la longue douleur du temps où les gars avaient si grand cœur qu'on ne voyait que lui autour des chemises? Où est passé Paris que j'aime? Paris que j'aime et qui n'est plus.
Guillaume, Guillaume Farley reviendra tout à l'heure. Merci Guillaume.
Merci. À toi.
Merci. On continue. Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis à la fête de l'humain.
Une foule immense, bigarrée, chatoyant, peuple le terrain.
Là-bas si j'y suis.
Là-bas si j'y suis.
C'est une belle fête, la fête des ouvriers.
Rien au monde.
En direct de la fête.
Je vois ça quoi.
Et sur le net.